Ça. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle éducation, comme chaque vendredi, et on s'interroge sur les classements des universités dans le monde. Certes, toutes les universités ne figurent pas dans les classements, mais néanmoins, chaque année, des dizaines de classements publient le rang d'université dans le monde, à commencer par le célèbre classement de Shanghai, qui confirme le poids écrasant des États-Unis. 45 universités américaines parmi les 100 meilleures universités au monde. Alors, sur quels indicateurs se fondent ces classements? À quoi servent-ils aussi? Quels sont leurs objectifs? Est-ce qu'ils favorisent finalement une saine compétition entre les établissements d'enseignement supérieur? Est-ce qu'ils permettent d'améliorer la qualité de l'enseignement? Est-ce qu'ils informent mieux les étudiants pour choisir leur université? À l'heure où des millions d'étudiants sont surendettés dans le monde pour se payer des études supérieures de plus en plus coûteuses, à qui profitent finalement les palmarès et les classements? On va en discuter avec nos invités. Et bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro WhatsApp gratuit pour nous téléphoner ou pour nous envoyer des messages. Bonjour Hugo Harari-Kermadec.
Bonjour, merci de m'inviter.
Vous êtes économiste à l'École normale supérieure de Saclay, université, ex-université Paris-Sud, maintenant on dit université Paris-Saclay, université qui figure dans le classement de Shanghai. D'ailleurs.
Alors l'université Paris-Sud figure, et c'est même la première cette année dans le classement français, l'université Paris-Saclay a été créée il y a une semaine, donc pour l'instant elle n'y figure pas, et c'est pas encore évident que le classement de Shanghai la classe rapidement.
Bon, en tout cas, l'université à laquelle vous apparteniez il y a encore quelques jours figure bien dans le classement de Shanghai, et pourtant vous publiez un livre très critique qui s'appelle « Le classement de Shanghai, l'université marchandisée » aux éditions Le Bord de l'eau. Également avec nous, Martial Guiette, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes président directeur général de l'agence de classement Eduniversal. Qu'est-ce que vous classez, vous, au juste?
Alors on classe en quatre étapes. On a une première étape, c'est une étape de sélection des établissements les plus reconnus dans 154 pays. Parce qu'on a essayé de dresser une liste avec une véritable visibilité pour les étudiants qui voulaient s'orienter dans le monde entier. Et on a trouvé 154 pays qui méritaient d'avoir au moins une institution référencée.
D'accord. Voilà. Et beaucoup sur les masters, on va bien sûr y revenir plus en détail et vous allez en débattre tous les deux. Et puis en fin d'émission, la chronique du psychologue Ibrahima Giroud, basée au Sénégal, parents, enfants d'ici et d'ailleurs.
7 milliards de voisins, ça nous rapproche.
On est ensemble, c'est votre vie au quotidien.
Et la planète se barre.
Hugo Harari-Kermadec, ça date de quand finalement cet engouement pour les palmarès, pour les classements concernant les universités et les écoles aussi?
Alors, il y avait une tentative dans les années 70 de faire un palmarès par le journal Le Monde des universités qui n'avait pas très bien marché. Et il y a un grand, grand renouveau à partir du milieu des années 2000 avec l'émergence du classement de Shanghai et avec cette idée qu'il y ait un grand marché international avec une importante migration, ça c'est vrai, hein, d'étudiants pour aller faire des études à l'étranger. Et donc depuis cette époque-là, il y a, en particulier en France d'ailleurs, un poids médiatique très important et un poids dans les décisions des ministres et des présidents d'université et d'école autour des classements. Mais donc en fait, c'est un renouveau qui a une dizaine d'années, quoi.
Le classement de Shanghai, c'est devenu le plus connu dans le monde des universités. À l'origine d'ailleurs, c'est un classement élaboré par les Chinois à l'origine.
Oui, c'est un classement élaboré par autour d'un laboratoire d'un département d'ingénierie et d'une université à Shanghai. Ouais.
Et c'était un classement pour que les Chinois s'y retrouvent mieux eux-mêmes?
Alors, si j'ai bien compris, en fait, l'idée, c'est surtout que c'était un classement pour comparer l'évolution de la recherche dans les universités chinoises avec ce qui se faisait à l'étranger, beaucoup plus que pour orienter les étudiants chinois qui partiraient à l'étranger ou les étudiants sénégalais qui voudraient aller aux États-Unis ou en Australie, etc.
Et aujourd'hui, c'est devenu la référence mondiale.
Bah ça, je sais pas, c'est pas très évident. Est-ce que les étudiants regardent le classement de Shanghai pour faire des migrations? Peut-être une petite partie d'entre eux, mais en plus, c'est pas évident. Je pense que Martial en parlera plus, mais il faut aller beaucoup plus dans le détail que ce que le classement de Shanghai est capable de faire pour s'inscrire à l'université et choisir une université, un diplôme spécifique, etc. Par contre, c'est la référence pour réorganiser le système universitaire français. Là, de façon très régulière, les ministres, chaque année, commentent le classement, critiquent et en même temps disent qu'il faut quand même s'intégrer, et vous l'avez mentionné, mon université est en pleine transformation. D'ailleurs, mon bureau va déménager de 20 km pour monter dans le classement de Shanghai.
C'est ça ? Parce que les universités en France, mal classées, hein, la première université, c'est la vôtre, est à la 30...
Oui, ça doit être ça, 30 première place. Ouais. On espère, avec la fusion, enfin le président espère monter dans le top 15, je crois.
Donc vous allez déménager à cause du classement.
Oui, voilà. Ouais.
35 établissements français dans le top 1000 du classement de Shanghai. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment sont élaborés en général ces classements, et à commencer par le classement de Shanghai ?
Alors, bah, évidemment, ça dépend
Qu'est-ce
beaucoup du classement et de l'objectif. Mais là, comme c'était un classement qui visait à mesurer plutôt la recherche, on mesure quasi exclusivement la recherche. Il n'y a pas la moindre étude sur comment se passent les cours, est-ce que les étudiants passent leur diplôme rapidement, est-ce qu'ils redoublent ou pas, quel est le niveau des étudiants. Tout ça n'apparaît absolument pas dans le classement de Shanghai. On n'interroge personne sur ça. Contrairement à plein d'autres classements où la réputation ou l'avis des spécialistes compte beaucoup plus. Là, ce qu'on va faire, c'est des mesures très, très grossières et très quantitatives de la recherche, donc à travers d'abord et avant tout les prix Nobel, ce qui est quand même quelque chose qui mesure l'état de la recherche plusieurs années avant et pour un individu, donc c'est très 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 limité, et après des articles, des quantités d'articles. Alors, personne à Shanghai ne lit quoi que ce soit, hein, on regarde combien d'articles ont été publiés, par exemple dans deux revues américaines, Nature et Science. On va compter ça, on va attribuer à certaines universités, et ça va faire un gros effet sur la place dans le classement de Shanghai. Ce nom d'article, le nom de prix Nobel. L'évolution de l'université Paris-Sud vers le haut très forte cette année est passée devant ce qui maintenant est Sorbonne Université, qui avant était surtout Paris 6.
Ce sont les deux universités françaises qui figurent
en haut. Ouais. C'est parce qu'on a recruté un prix Nobel l'année dernière. Donc il n'a pas fait sa recherche.
On va le citer peut-être.
Alors je ne sais pas, j'ai oublié son nom. Mais c'est le recrutement d'une personne pour des recherches qu'il a menées ailleurs va faire complètement changer la position de celui qui apparaît dans le classement comme le meilleur établissement français.
Les sciences humaines sont nettement moins présentes dans le classement de Shanghai.
Alors c'est tellement le cas qu'il y a un facteur 2 pour le nombre d'articles en sciences humaines. Pourquoi 2, on ne sait pas du tout, mais le nombre d'articles en sciences humaines dans le classement de Shanghai est multiplié par 2 pour prendre en compte le fait qu'il y en a moins. Et par contre, les livres n'existent pas. Donc, par exemple, Bourdieu ou Foucault, qui sont souvent cités, qui sont les auteurs en sciences sociales les plus cités du monde, qui se trouvent être tous les deux français, ont avant tout publié des livres, et donc ils ne comptent pas dans le classement de Shanghai. Évidemment, ils n'ont pas de prix Nobel. Donc voilà, ça dit à quel point ça mesure extrêmement grossièrement la recherche, sans parler évidemment de l'enseignement que ça ne mesure pas.
Vous le disiez, en France, les ministres successifs de l'enseignement supérieur en France tiennent compte de ces classements, les présidents d'universités, mais pas qu'en France en réalité, hein, les Américains, les Anglais, les Allemands, tout le monde a les yeux rivés, enfin dans le petit monde de l'enseignement supérieur, a les yeux rivés sur le tableau de bord du classement de Shanghai et d'autres classements. Est-ce que les étudiants tiennent compte de ces classements dans leur choix? Martial Guillette.
Oui, je pense qu'il est manifeste qu'aujourd'hui, les étudiants utilisent le classement comme leur premier outil d'aide à la décision. Et c'est manifeste.
Les classements en général, vous voulez dire.
Alors, les classements en général.
Ils comparent les différents classements aussi, ou la place des universités qu'ils convoient dans les différents classements.
Alors. Le problème, on ne le prend pas par le bon bout. Il faut le prendre par le bout du consommateur, parce qu'on est dans un univers, on en parlait, de consommation, quoi qu'on en dise. Et même en matière d'éducation, aujourd'hui, c'est la même chose. Et c'est-à-dire qu'un étudiant va réfléchir au retour qu'il va avoir sur investissement, qu'il paye ou qu'il ne paye pas. hein, que ses études soient proches de la gratuité ou qu'elles coûtent au contraire très très cher. Et ce qu'il va vouloir comprendre, c'est est-ce que en investissant du temps, puisque quand on investit une année d'études, en fait, on n'est pas payé pendant un an.
Et des efforts.
Voilà, et donc ça coûte encore plus cher que l'année d'études elle-même. Donc c'est des efforts, effectivement, et ce sont des années sans argent si on n'est pas en apprentissage. Bon. Donc c'est pas du tout neutre.
Alors, est-ce qu'ils en tiennent compte ou pas des classements ?
Absolument, bien sûr qu'ils en tiennent compte. Aujourd'hui, nous, si vous voulez, au départ, on est un cabinet de conseil en orientation qui s'est créé donc en 1994 et qui orientait à peu près un millier de personnes par an.
Bon, à l'époque, les étudiants ne venaient pas vous dire mais telle université, comment ça figure, dans quel classement ? Ils ne regardaient pas ça, les
étudiants. Bien sûr que si. À l'époque, il existait des magazines.
Il n'y avait quasiment pas d'Internet. Donc,
Il existait des magazines papier que vous avez lus.
Oui,
les
magazines, etc.
Voilà, et qui sortaient des classements. Et c'est en venant chez nous, alors que nous, on fait une orientation qui est par thème et par niveau, et donc par spécialité. C'est-à-dire que lorsqu'on va orienter quelqu'un, par exemple, en marketing digital ou en gestion de patrimoine, on va comparer ce qui est comparable. Donc, on va comparer les bachelors ou les masters ou les licences spécialisées dans le domaine. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc, on a rempli un vide, en fait, si vous voulez. Parce qu'à l'époque, ce qui se passait, c'est que les gens comparaient les marques et ne comparez pas les formations. Et ce qui a changé avec Eduniversal, c'est justement le fait d'avoir pour la première fois offert un comparateur de programmes par thème. Et en France d'abord, à partir de 2002, et ensuite à l'international, à partir de 2011.
Sur la base de quelles sources ?
Alors, on a des plateformes d'enquête qui sont aujourd'hui considérables. On a 200 000 étudiants, rien qu'en France, qui participent à nous.
Et vous interrogez aussi les universités, les établissements ?
On interroge absolument. On a une plateforme des doyens, une plateforme mondiale des doyens, qui se connecte chaque année pour donner leur avis et leurs recommandations dans 154 pays. Donc, ça leur prend des heures et des heures. Et ils se plient à cette discipline. Et ça nous permet d'avoir pour tous, une plateforme qui n'est pas monétisée d'ailleurs au passage sur cet aspect-là.
Mais preuve que répondre à des questionnaires, ça veut dire ensuite se donner une chance de figurer dans un classement. Figure dans des classements,
alors
mieux
c'est. Alors pas celui-là, parce que celui-là, en fait, ils répondent que pour les autres. Et ils ne répondent pas pour eux-mêmes. Donc, effectivement, ce qu'on peut imaginer, c'est comme au patinage artistique, qui s'appellent les uns les autres. Bien sûr, c'est quand même quelque chose qui se veut au départ faire.
Hugo Harry Kermadec, vous dites dans votre livre Le classement de Shanghai, l'université marchandisée, que finalement les politiques regardent les classements de Shanghai, les gestionnaires d'université, les chercheurs regardent les classements, mais que les étudiants finalement regardent assez peu les classements.
Alors, ça dépend desquels, ça dépend où, hein. Je pense que déjà en Allemagne, en fait, les politiques et les présidents d'université refusent de participer au classement de Shanghai et de réorganiser leur système universitaire dans cette direction-là. Ça, c'est quand même particulièrement fort en France.
Néanmoins, il y a des universités allemandes qui sont dans le top 100 des universités d'Heidelberg. Elle est dans le top 100 des universités dans le classement de Shanghai.
Ça doit être assez largement contre leur gré. Et il y en a clairement qui refusent de répondre à quoi que ce soit.
Et
après, évidemment, elles ne peuvent pas empêcher le classement de Shanghai de les classer.
Et pourquoi ?
Parce qu'elles considèrent que c'est profondément contraire avec leur conception de l'université. Avec une conception humaniste, absolument pas une conception en termes de retour sur investissement, et donc pas mesurable, pas quantifiable, quoi. Et donc ils refusent qu'on le compare avec une université qui fait autre chose, dans une autre logique, qui demande une approche plus qualitative. Voilà, les étudiants qui vont faire des choix d'études avec une approche très économique, qui vont dépenser beaucoup d'argent parce qu'ils partent s'installer à l'étranger, mais aussi parce qu'ils vont payer des frais d'inscription très élevés, vont sans doute avoir besoin de passer devant un banquier. Et là, pour le coup, le classement va servir de caution pour le prêt en partie. Et du coup, va imposer aussi que le choix de scolarité se fasse avec cette logique économique de retour sur investissement. Donc du coup, vraisemblablement, on ne fait pas les mêmes choix. On peut plus difficilement faire, par exemple, un parcours professionnel qui viserait une position de fonctionnaire.
Mais bon, un étudiant, globalement, pour la licence, il va étudier pas très loin de chez lui, que ça ne coûte pas trop cher. Mais au niveau du master, ça change complètement, là.
Alors, c'est pas du tout les mêmes étudiants. En France, ceux qui vont faire du master, c'est des catégories sociales plus aisées. Et en licence, on a une massification de l'enseignement supérieur enfin en France, ce qui fait qu'il y a un accès beaucoup plus large et effectivement très près. Et du coup, évidemment, pas dans le classement de Shanghai, mais pas dans les universités qui sont classées dans le classement de Shanghai, puisque celles-ci, en général, elles sont à Paris ou dans le centre de Lyon ou de Marseille ou de Toulouse, et du coup, qui sont pas proches de là où habite cette massification de l'enseignement, enfin les étudiants qui participent à cette massification de l'enseignement supérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on a fait une enquête à Dauphine, les étudiants qui ont choisi Dauphine.
Donc, l'université Paris-Dauphine, qui est une université un peu à part, hein, d'abord qui a des frais d'inscription dérégulés, beaucoup plus élevés que les autres universités en France, et qui est principalement une université où on étudie l'économie, le business, hein, la
oui,
finance.
Tout à fait. Ouais. Et qui est dans l'ouest parisien, donc plutôt dans les quartiers chics, a des étudiants qui n'ont pas du tout choisi en fonction du classement, ni de Shanghai, ni d'autres classements. Mais comme c'est la tradition en France, par du bouche à oreille, par recommandation.
L'aura de l'université, finalement, et l'image, la très bonne image de l'université Paris-Dauphine chez les employeurs, c'est ça ?
Non, beaucoup plus les relations interpersonnelles de leurs parents, leurs grands frères, leurs grandes sœurs, les amis qui ont été à Dauphine, parce que c'est dans la sociabilité, c'est proche, et donc ça paraît étrange d'aller dans une université différente qui serait en rupture, en fait. Mais ça marche ça à la fois dans ce qui est les enfants de la bourgeoisie, mais aussi des classes populaires qui vont aller là où c'est plus familier, en fait, avant tout, et avec un rapport interpersonnel, plutôt que à travers la médiation d'un classement étranger, lointain, et qui du coup ne rassure pas pour accéder à l'établissement.
Ce que vous voulez dire finalement, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Martial Guette, mais finalement, ce que dit Hugo Harari-Kermadec, c'est qu'une université comme Paris-Dauphine, c'est peut-être une exception aussi, mais finalement, elle n'a pas besoin de figurer dans des classements internationaux. De toute façon, pour Shanghai, ça serait compliqué parce que c'est petit. Mais néanmoins, elle n'a pas besoin d'être choisie par les étudiants à la faveur d'une bonne place dans un classement international, parce qu'elle a déjà une aura et une très bonne image d'efficacité d'insertion professionnelle sur le marché français.
Absolument, l'établissement n'a absolument pas besoin. Par contre, les programmes, eux, en ont besoin. C'est-à-dire les programmes d'être comparés les uns aux autres. Et Dauphine, les responsables de programmes de Dauphine participent très largement au classement sur meilleur master et même sur meilleure licence. Pour vous donner un chiffre quand même, pour répondre à votre question de façon un peu statistique, on oriente 5 millions aujourd'hui d'étudiants par l'intermédiaire des classements sur bestmasters.com et sur meilleurmaster.com et meilleure licence.
Voilà, ce sont vos classements. Ouais.
Voilà. Mmh. Et on a orienté 40 millions d'étudiants depuis le début de ce processus. Donc, vous voyez l'importance que ça peut avoir. Pour vous donner une idée, il y a à peu près 4,5 millions d'étudiants internationaux qui voyagent avec une forte aspiration. Et pour rejoindre ce que dit Hugo, il est vrai que on oriente beaucoup avec nos sites internet les étudiants qui ont le plus de motivation. Et pour parler des étudiants africains, il faut savoir qu'ils font partie des étudiants qui ont la plus grosse motivation pour y parvenir. Et donc, ne croyez pas que les masters soient réservés aujourd'hui uniquement à des CSP plus bien français. Au contraire, on a une pression très forte à l'entrée des étudiants internationaux et beaucoup des étudiants africains et qui ont d'excellents niveaux académiques.
Alors justement, on a une question d'un auditeur là, et je précise, je vous le redis, vous pouvez continuer de nous envoyer des questions ou de nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le WhatsApp qui est gratuit. Eric est à Yaoundé au Cameroun. Il nous dit, moi je voudrais savoir s'il y a des universités africaines qui figurent dans ce classement de Shanghai. Hugo Harari Kermadec, le continent africain, on ne va pas se mentir, c'est le continent qui est le moins présent dans le classement de Shanghai.
Oui, tout à fait. En fait, en réalité, ce qui est très très corrélé avec le classement de Shanghai, c'est les dépenses en recherche, quoi. Et donc, si vous avez une grosse université de médecine, une grosse faculté de médecine, beaucoup de dépenses en biopharmacie, de la recherche qui coûte très très cher, vous allez monter dans le classement de Shanghai mécaniquement, quoi. Et ça, évidemment, ça dépend de la richesse du pays avant tout. Donc, ce n'est pas complètement par hasard que c'est les pays les plus riches qui figurent tout en haut. Avec en plus un biais particulier pour les vieilles universités anglo-saxonnes, parce qu'ils ont eu des prix Nobel depuis très longtemps, par exemple, et qui du coup vont figurer en haut et figureront toujours en haut. L'université d'Harvard est première depuis la naissance du classement, et vraisemblablement pour très longtemps encore.
Oui, et dans les top 10, dans le top 10, il y a deux universités britanniques, hein, oui. Oxford, Cambridge. Donc voilà, ça n'a pas beaucoup changé, en fait, hein, finalement. Pour l'Afrique, dans le classement de Shanghai, il y a 15 établissements africains, dont 13 établissements sud-africains, hein, voilà, notamment l'université du Cap, et deux établissements égyptiens, il y a l'université du Caire. Donc effectivement, on voit bien aussi là, quand même, que le poids de la langue, si on évalue le poids des publications internationales, forcément, dans les facs où on parle l'anglais, on est favorisé.
Alors, c'est un tout petit peu plus détourné, puisque comme c'est surtout les publications en sciences expérimentales qui comptent et en sciences de l'univers, du coup là, en fait, c'est avant tout des maths avec un peu d'anglais entre deux formules, et c'est pas, je pense, beaucoup plus difficile pour un Allemand ou un Français que pour un Américain. Par contre, ce qui va jouer, c'est la proximité avec les grandes revues, la proximité avec le comité Nobel, etc., qui là, pour le coup, est de l'ordre de la sociabilité encore, l'histoire commune, etc. Et donc, c'est plus difficile pour les outsiders de rentrer. Mais je ne suis pas sûr que là, l'anglais soit décisif. Par contre, là où, en sciences sociales, on en parlait tout à l'heure, hein, là, la langue joue beaucoup, beaucoup plus, mais ça intervient très peu dans le classement, en fait.
Alors, il n'y a pas que le classement de Shanghai. On le dit depuis le début de l'émission, Martial Guette, il y a beaucoup d'autres classements. Il y a des classements d'ailleurs faits par les Britanniques aussi, qui comptent beaucoup, qui sont très lus. Hein,
Oui, tout à fait. Ouais. Le Times Higher Education, par exemple, qui sont pour le coup des classements plus thématiques.
Oui, ils sont plus thématiques. Il faut savoir que nous, on a ouvert le bal avec l'internationalisation et des classements thématiques à l'international. Et certains ont emboîté le pas et essaient d'élargir. Par exemple, il y a le Financial Times qui s'était vraiment très orienté finance et qui maintenant s'écarte un peu de la finance pour aller sur des matières plus proches du management général.
Et pour revenir au continent africain, il y a des revues, notamment des journaux, comme en Grande-Bretagne. Le Jeune Afrique fait un classement aussi des meilleures universités. Et c'est là qu'on voit apparaître, d'ailleurs, pas seulement des universités, mais des écoles de commerce privées sur le continent subsaharien.
Oui, beaucoup, ça se développe vitesse grand V, parce qu'il y a une très forte demande. Il y a une grosse aspiration. Pourquoi les classements constituent une réponse à une question d'orientation forte? C'est parce que ça répond à deux sentiments très, très puissants chez les jeunes, et peu importe où ils se trouvent, soit en Afrique, en France, aux États-Unis. Il y a deux sentiments. D'abord, il y a une aspiration vers le haut, le désir d'ascension sociale. Et ça, c'est vraiment une envie de gagner. On va appeler ça l'envie de gagner. Et puis après, il y a la peur de perdre. Et la peur de perdre, en France, elle est très forte. C'est un sentiment qui est vraiment assez permanent, parce qu'on a un vieux pays avec, je dirais, très beau et très intéressant et avec beaucoup de richesses. Et donc, on a envie de les conserver. Et donc, on a toujours peur de perdre. Et cette peur de perdre, c'est une peur qui peut s'apparenter à la mort et à la peur aussi de l'échec économique. Et ce sont ces deux sentiments qui sont les moteurs des étudiants aujourd'hui. Et ces étudiants veulent une réponse parce qu'ils sont angoissés. Et par contre, une information, je pense, qui est très intéressante pour vos auditeurs, pour tous les spécialistes de l'éducation supérieure, et ça c'est un vrai tuyau, c'est que il n'y a que 5% des étudiants qui s'intéressent vraiment à leur orientation. C'est-à-dire qu'ils vont s'intéresser sur le fond,
contenu,
à la stratégie
de ce qu'ils vont. Vous voulez dire au contenu de ce qu'ils vont apprendre?
Non, mais ils vont consacrer, 95% des étudiants vont consacrer 3-4 minutes à leur choix d'orientation, qui va pourtant déterminer toute leur existence.
Vous parlez des étudiants qui sont sur votre plateforme?
Je parle des étudiants, malheureusement, pas que des étudiants qui sont sur votre plateforme, des étudiants en général, quand ils sont à la sortie du bac, si on prend l'exemple français, je sais que des choses sont mises en place.
Non, mais quand on s'oriente vers des universités qui coûtent plusieurs milliers de dollars, voire plusieurs dizaines de milliers de dollars, je pense que quand même on consacre un peu plus de temps à son orientation.
Malheureusement, non. Et ça, c'est un constat malheureux qu'on a pu faire. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dirigé vers Internet et vers les 3-4 minutes décisives qui vont faire qu'ils vont regarder un classement. Et donc la responsabilité morale de bien les orienter pèse sur nous, elle est très forte, parce qu'on sait que malheureusement, ils ne vont pas forcément aller combiner avec d'autres informations. Ils ne vont pas prendre le temps qu'on prenait dans les années 70 ou 80 à aller faire des recherches, parce que justement, ils n'en ressentent pas le besoin, puisqu'ils ont des outils Internet qui leur permettent de le faire en 3 minutes. Et c'est vraiment...
Alors, on va revenir au classement. Hugo Harry Kermadec, vous dites dans votre livre, et on va en discuter, concernant l'impact sur les universités, on cherche et on enseigne pour faire monter le rang de l'établissement dans les classements et pouvoir faire augmenter le niveau des frais de scolarité. On en discute dans quelques instants. Je vous redonne notre numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71.
Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête. Ou si sereine, ou fais-tu juste la guerre. La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. Blague à part, devient loup sa part.
Seul, seul, seul.
Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na.
Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène, laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne. Ma blessure saigne et le sang monte à la tête. Je reste la même et ce quoi qu'il advienne. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. La peau n'est pas noire, elle est couleur ébène. Où es-tu sereine, où fais-tu juste la guerre. Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine.
Seul, 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 je veux être seul. Seul.
Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na.
Au plus j'avance, au plus je les devance. Tant pis si tu ne suis pas la cadence. Je ne sais même plus sur quel pied je danse. Encore un acte trop frais, ça dérange. La mélodie me berce et me ronge. Chaque mot me perce et donc je plonge. Dans les profondeurs de mes songes. Je nage, me noie dans la pénombre.
Dilemme, Laosan de Yakuza, chez 7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI. 7 milliards de voisins, on parle éducation, comme chaque vendredi. Aujourd'hui, on se pose des questions sur les palmarès et les classements d'université. Il y en a partout. Si vous vous posez des questions, où aller étudier l'année prochaine, vous tapez n'importe quel nom d'université, vous allez pouvoir le retrouver. Alors, plus ou moins bien placé dans des palmarès ou des classements. On le disait d'ailleurs... il y a quelques minutes, le continent africain est le continent le plus absent de tous les continents dans les palmarès. Mais encore que, maintenant, il y a des classements plus spécifiques où on voit apparaître des écoles de commerce, des écoles de des business schools africaines, et c'est en train de changer. Et sinon, dans le fameux classement de Shanghai, sans surprise, c'est un poids écrasant des universités américaines dans le top 10. 8 universités américaines, 2 universités britanniques. Et ensuite, dans le top 145 universités américaines. Donc là aussi, un poids écrasant. Hugo Harari Kermadec, vous publiez le classement de Shanghai, l'université marchandisée. Je précise que vous êtes économiste, mathématicien d'ailleurs à la base, et que vous êtes à l'université Paris-Saclay, qui s'appelait Paris-Sud il y a encore quelques jours, qui figure comme première université française dans le classement de Shanghai. Et donc on peut se demander, parce que votre livre est quand même très critique, ça s'appelle l'université marchandisée, si vous ne crachez pas un peu dans la soupe finalement, parce que, en tout cas, on ne peut pas vous accuser d'amertume, hein, vu que vous êtes vous-même au top de l'excellence. Mais vous dites, on cherche et on enseigne pour faire monter le rang de l'établissement dans les classements et pouvoir faire augmenter le niveau des frais de scolarité.
Oui, alors moi je pense qu'il faut, il faut remettre la responsabilité quand même. Hein. Je pense que ceux qui sont responsables en France, c'est avant tout les ministres et les chefs d'établissement. Et le classement de Shanghai, c'est surtout un prétexte, parce que c'est pas comme si les établissements souffraient de leur position ou de leur mauvaise position et manquaient d'étudiants. Au contraire, on a beaucoup, beaucoup trop d'étudiants et il faudrait créer des places à l'université et des nouvelles universités massivement hein, depuis une dizaine d'années. Et donc c'est avant tout les politiques actuelles de l'enseignement supérieur qui vont transformer l'université. Mais ça se traduit à travers le classement de Shanghai, et ça n'est pas du tout neutre. On aurait pu avoir d'autres outils, mais c'est celui-là principalement. Et puis d'autres méthodes d'évaluation quantitative, le fait de mettre en nombre toute la production des personnels de l'université. Et donc le classement de Shanghai, c'est la production de recherche surtout, mais il y a d'autres, on demande aux étudiants de plus en plus de noter les cours qu'ils reçoivent, ouais. Ça c'est quelque chose
de
que,
par
exemple... De
noter les enseignants, ils sont tous notés dans les universités américaines, les enseignants.
Dans la création de l'université Paris-Saclay, donc qui date d'une semaine, c'est obligatoire, alors qu'avant ce n'était pas le cas.
Alors, on avait des retours. Pourquoi ça pose un problème pour vous?
Moi j'ai des retours de mes étudiants depuis que j'enseigne, j'ai une plateforme qui permet aux étudiants, de façon anonyme, de m'envoyer des informations. On a aussi, à la fin de chacun de mes cours, il y a une discussion. J'ai un avis qualitatif sur le contenu, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Si je suis noté, je vais être noté, c'est ce que me demande mon université maintenant, hein, de façon identique dans mon cours de statistique pour étudiants en économie avec un cours de philosophie ou un TP de physique. Donc, quelle information on peut tirer quand on sait qu'on est un peu meilleur ou un peu moins bon qu'un TP de physique quand on donne un cours de stats ou un cours d'histoire? Je ne vois pas. Ça n'a aucun intérêt pour l'enseignant, pédagogiquement. La seule chose qu'on a, c'est une popularité plus ou moins bonne, avec des étudiants qui sont différents, qui comparent des choses différentes, matériellement différentes, sur des sujets différents, à des niveaux différents. Donc ça n'a aucun sens.
Mais vous pouvez être comparé à d'autres enseignants, par contre.
On pourrait comparer mon cours avec un autre cours de stats. Et d'ailleurs, ce qu'on devrait faire et ce qu'on fait, et qui est beaucoup plus logique, c'est surtout qu'on échange entre enseignants. On a des avis sur les méthodes qu'on utilise. On va piocher dans des répertoires communs. Là, ce vers quoi ça mène, mais je pense que c'est ça, c'est vraiment la logique hein, quantitative, d'évaluation quantitative qui est matérialisée par les classements en général, celui de Shanghai en particulier, c'est qu'on veut rendre comparable, surtout pour un pilote, pour un manager, qui va pouvoir donner une prime à celui qui arrive premier et éventuellement retirer ou limiter l'avancement des autres. Et ça sert le manager, ça sert absolument pas à améliorer le contenu du cours. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui est particulièrement bon, qui met particulièrement d'énergie, pourquoi pas le récompenser?
Mais ça, vous voulez ça dire que les classements n'améliorent pas la qualité des universités?
Ah ben c'est pas du tout l'objectif. Et donc ce qui est très étrange et ce qui est très malhonnête, c'est de l'utiliser comme moyen de management, moyen de gestion. Et en France, ça joue à une échelle colossale, plusieurs milliards d'euros, de ce qui s'appelle les politiques d'excellence, où on va donner, par exemple à mon université, quelques milliards d'euros, enfin... pour se réorganiser, pour monter dans le classement. Et surtout, on ne va pas du tout donner quoi que ce soit à l'immense majorité des universités françaises, parce qu'elles ne figurent pas, elles ne figureront pas dans le classement de Shanghai.
Et ce que vous voulez dire, c'est que ce budget qui va être augmenté pour vous faire encore davantage monter dans le classement, puisque vous êtes vraiment dans le haut du panier, et que je précise que vous êtes enseignant à l'école normale supérieure, hein, qui est inclus, donc l'ENS, très prestigieux, qui est inclus dans l'université Paris-Sud Saclay, vous voulez dire que ça ne profite pas aux étudiants, finalement, ce budget augmenté?
Alors, dans le cas de Saclay, c'est particulièrement visible. Hein. On a sorti de l'université Paris-Saclay tout ce qui est premier cycle normal, les licences non sélectives, pour l'instant quasiment gratuites. Ça ne fait pas partie de ce qui s'appelle, dans notre jargon interne, le périmètre de marque Paris-Saclay. Donc, ils n'auront pas de diplôme Paris-Saclay.
On parle comme ça maintenant, périmètre de marque?
Les enseignants le moins possible, mais enfin, l'administration de l'université parle comme ça. Oui, c'est les textes au conseil d'administration, c'est la marque Paris-Saclay. Et donc, il n'y aura pas de marque Paris-Saclay pour les étudiants de
licence. Est-ce que vous avez des informations qui vous permettent de dire que ces classements permettent de faire augmenter les niveaux des frais de scolarité? Ce n'est pas le cas en France, puisque le prix des licences et des masters est réglementé. Mais ailleurs?
Si, en France aussi, c'est le cas, hein, puisqu'on a un nombre extrêmement grand et croissant d'exceptions qui permettent d'augmenter les frais d'inscription. Donc là, vous avez déjà plusieurs fois parlé, j'entrerai pas dans le détail sur ça, mais de la hausse pour les étudiants extra-communautaires qui commence à être mis en place et qu'il devrait l'être surtout à partir de l'année prochaine. Mais dans tous les masters qui sont dits internationaux, c'est-à-dire où on enseigne en anglais, où il y a beaucoup d'étudiants étrangers, c'est libéré depuis plusieurs années. Et à Paris-Saclay, par exemple, on fait payer au moins 6 000 euros. Il y a plein d'universités qui ont des diplômes d'établissement, qui ne sont pas des diplômes nationaux, qui donc ne sont pas concernés par la limite de la tarification.
Et donc, si les universités, vous dites, c'est ce qui permet de faire rentrer un peu d'argent, parce que comme le reste des études est quasiment gratuit, forcément, les universités sont sous-dotées.
Enfin non, ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous avez un étudiant en plus en master que vous faites payer 6 000 euros, ça coûte beaucoup plus que 6 000 euros. Donc en fait, ça fait perdre de l'argent à l'université, en relatif.
Ce qui, vous voulez dire contre, parce que la dépense publique par tête d'étudiant est plus élevée pour un master.
Mais par contre, ça va dans le sens de la politique d'excellence du gouvernement. Et donc, ça permet peut-être d'avoir plus de financement public. Et par contre, refuser de mettre en place des frais d'inscription, ça va être mal vu. Et on va nous expliquer, ça ne va pas du tout. Vous devriez changer ou alors vous ne rentrez pas dans... Vous n'êtes pas éligible au programme d'excellence.
Martial Guillette.
Ouais. Une remarque concernant, pour rebondir sur les enquêtes de satisfaction et les évaluations des professeurs. Nous, dans les classements aides universales, on a des plateformes d'enquête auxquelles participent aujourd'hui 60% des étudiants français, 40% des étudiants internationaux. Ça, c'est les taux de participation.
Évidemment, à la différence du classement de Shanghai, vous vous intéressez beaucoup plus au ressenti des étudiants.
Absolument. Donc, c'est vraiment le retour de satisfaction, mais sur leur matière, sur leur domaine. Et donc, en fait, les gens qui sont comparés, ils font la même chose. C'est-à-dire, c'est des profs qui sont rivaux dans les mêmes domaines. Et d'ailleurs, ça nous a amené, sur la base de ces plateformes d'enquête, à créer les trophées de la pédagogie, qui est quelque chose d'assez sympa, qui est totalement non marchand et qui s'est créé spontanément. C'est-à-dire, quels sont les profs, finalement qui rencontrent la satisfaction la plus forte de la part de leurs étudiants. Souvent, on a eu des critiques extérieures en disant « Mais attendez, un étudiant, quand il fait un taux de satisfaction, il est forcément influencé par le fait qu'il a envie que sa formation monte dans le classement et donc il va être très favorable. » Et il y a un biais. Effectivement, il y a ce biais-là. Mais vous apercevez que si quelqu'un travaille mal, il y a un autre biais dans l'autre sens, c'est-à-dire que les étudiants ont un pouvoir colossal avec aide universelle, c'est que ça leur permet de casser le programme et de se venger assez violemment.
Ouais, en tout cas, c'est vrai, pour un enseignant qui fait son travail un peu de manière dilettante, effectivement, c'est vrai que l'évaluation des étudiants peut apporter un ciblage et peut apporter une forme de dénonciation quand même.
Pas sous une forme de note, ça c'est clair que ça ne marchera pas, à moins que les étudiants... ça ne se verra pas, ce sera noyé dans la masse, puisque l'objectif de ces notes-là, c'est de sortir plutôt un ou une de primant ou quoi.
Mais alors, on a plusieurs interventions d'auditeurs. On a Amadou qui nous poste un message. Il est à l'université de Bambay au Sénégal. C'est pas le prof le problème, ce sont les universités universitaires de l'espace francophone qui ont un complexe viscéral face aux universitaires du Commonwealth. Alors, on le parlait, là, on en discutait avec vous, Hugo Harry Kermadec. C'est vrai qu'il y a quand même une bataille de la langue dans cette compétition mondiale des universités où on évalue d'abord le poids de la recherche en anglais.
Ouais, et vous disiez tout à l'heure que les Américains dans le classement de Shanghai représentaient 45% à peu près de la masse.
45 universités dans le top 100.
Bon, chez Universal, c'est 15%. Pour vous donner une idée
sur la parité.
On n'a pas du tout les mêmes critères. Nos critères, c'est la reconnaissance internationale, c'est-à-dire le rayonnement plutôt international. C'est-à-dire qu'on va distinguer les universités qui rayonnent localement, celles qui rayonnent sur un plan régional, comme leur continent, et celles qui vont rayonner sur un plan vraiment universel. Et on arrive à la fin sur l'universel, on est sur un top 100. Mais dans ce top 100, on n'a pas du tout que des Américaines. Et nous, l'ADN des universals, c'est vraiment... c'est pas d'être global qui nous intéresse, c'est d'être universel. Et ça implique de la diversité et ça implique aussi de la parité. Et ça veut dire que on peut pas réduire le monde à un seul pays ou à deux, trois États. Le monde, c'est aujourd'hui près de 200 États. 7 milliards d'individus, c'est le nom de votre émission.
On est 7 milliards et demi maintenant.
Voilà, et c'est ça qui nous intéresse.
Hugo Harry Kermadec, vous dites dans votre livre... L'université, le classement de Shanghai, l'université marchandisée, que les Anglais se vantent d'être finalement les plus productifs avec le moins d'argent public investi. On a le plus de publications au monde. C'est d'un cynisme absolu.
Bah ça, c'est la devise de l'agence d'évaluation anglaise, hein, le REF. Et ce qui est intéressant, c'est que là, en ce moment, là, dans les semaines qui viennent, Thierry Coulon, qui est le conseiller d'Emmanuel Macron à l'Élysée pour les questions d'enseignement supérieur et de recherche, va prendre la tête de l'agence d'évaluation française avec l'idée, qu'on sait puisque c'est apparu dans les mails de la campagne d'Emmanuel Macron, de faire la même chose que le REF, c'est-à-dire de...
Que l'agence anglaise, donc.
Que l'agence anglaise, pardon. D'évaluer avec objectif de flécher les moyens en fonction de l'évaluation. Donc de faire la même chose, c'est-à-dire d'augmenter la productivité des enseignants-chercheurs français comme celle des Anglais. Et avec tous les effets qu'on sait que ça produit, ils sont exactement les mêmes qu'à France Télécom, que partout où il y a un management extrêmement quantitatif et brutal qui se met en place, qui est de la souffrance au travail. Et ce n'est pas du tout évident une amélioration de la production. Quoi.
Et des révoltes étudiantes, on a vu le cas du Chili, qui est le pays où l'éducation est la plus privatisée au monde, hein, et où d'ailleurs la qualité de l'éducation n'est pas formidable. Et puis aussi, on a vu beaucoup de révoltes étudiantes au Royaume-Uni, parce que les frais de scolarité ont considérablement augmenté ces 10 dernières années. Sans parler, évidemment, de la bulle de l'endettement des étudiants américains, au point que ça figure, ça devient des sujets de campagne, hein, et puisqu'on a vu des candidats aux élections aux États-Unis, notamment Bernie Sanders, qui proposait
d'annuler la dette, ouais.
D'annuler la dette étudiante. On verra là si c'est présent.
Pour plusieurs milliers de milliards de dollars.
Ouais. Et est-ce qu'il y a un contre-projet qui s'annonce, qui servirait à la fois quand même, parce que dans cette compétition mondiale, on ne peut pas nier tout de même, Hugo-Harry Kermadec, que c'est bien aussi la compétition, c'est une émulation, ça donne envie aux enseignants d'être plus productifs.
Franchement, ça dépend de ce qu'on appelle compétition. Il y a toujours, depuis la naissance de l'université, il y a un côté international. Les universitaires, les étudiants comme les enseignants ont voyagé depuis le Moyen-Âge. C'est un peu l'identité originelle de l'université. Mais ça veut dire aussi qu'ils passent leur temps à coopérer et qu'avant tout, il y a une petite compétition avec des égos pour les chercheurs qui veulent être très reconnus et être le premier à publier sur un sujet. Mais enfin, l'essentiel du travail, c'est du travail collaboratif. On signe des articles, on fait des conférences, on va se parler. On perd rien quand quelqu'un d'autre a trouvé, à part peut-être un prix Nobel. Et c'est là où, du coup, cette insistance sur l'évaluation quantitative ou sur le classement fait qu'on est dans une compétition où, quand l'autre gagne, on perd, quoi. Et c'est ça qui est très différent avec ce qu'était la tradition de la recherche ou de l'enseignement, où quand quelqu'un a écrit quelque chose d'intéressant, bah, on le lit, on l'utilise, on n'y perd rien, quoi. Il n'y a pas de propriété exclusive. C'est ça qui est important avec la connaissance. La création de connaissances profite à tous.
Martial Guiette, ça serait quoi finalement un idéal de classement qui serve à la fois l'excellence des écoles, de l'université, le service aux étudiants?
On espère y toucher un petit peu, c'est-à-dire qu'on n'a pas la prétention de penser que notre classement est arrivé, je dirais, au terme de son développement. Mais en tout cas, nous, on s'intéresse d'abord à l'intérêt de l'étudiant. C'est vraiment ça notre ADN. Et très franchement, je ne crois pas qu'il y ait un seul étudiant au monde qui se base sur le classement de Shanghai pour faire ses choix. Pour une raison simple, c'est que Hugo l'expliquait très bien, c'est que le critère du classement de Shanghai, c'est un critère de recherche, donc qui va intéresser avant tout les hommes politiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'on entend parler du classement de Shanghai très régulièrement sur les médias. En revanche, oui.
Oui, on arrive à la conclusion, la dernière phrase, je vous en prie.
Oui, donc je pense que ce qui est important, c'est vraiment de répondre aux aspirations des étudiants. Et c'est pour ça que je vous invite à consulter Best Masters.
Merci à tous les deux. Hugo-Harry Kermadec, vous avez publié le classement de Shanghai, l'université marchandisée. Martial Guiette, vous êtes directeur général de l'agence de classement et d'Universal. Dans quelques instants, la chronique d'Ibrahima Giroud.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. C'est la chronique d'Ibrahima Giroud, psychologue basé à Dakar pour l'UNICEF. Bonjour Ibrahima Giroud.
Bonjour Emmanuel.
On vous retrouve chaque semaine et bien sûr aussi, on peut télécharger et réécouter toutes les chroniques sur les plateformes de téléchargement en podcast. Il suffit de taper « Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs ». Aujourd'hui, attention, les enfants sont attentifs à tout ce qui vient des adultes.
C'est-à-dire qu'il faut se surveiller tout le temps.
Emmanuel, les enfants ne nous écoutent pas simplement parler. Ils nous regardent faire. Ils nous voient faire. Ils sont attentifs à ce que nous faisons. Cela signifie qu'ils nous associent à ce que nous faisons. C'est comme si pour les enfants, nous sommes ce que nous faisons.
Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel les enfants observent de cette façon-là les parents ?
Oui, dès la naissance.
Dès la naissance ?
Dès la naissance. Regardez comment est-ce que le bébé vous observe quand vous parlez, pour comprendre vos émotions, pour deviner vos intentions. Donc, dès la naissance, il regarde notre bouche et l'expression de notre visage pour deviner nos émotions, nos intentions. Rappelez-vous, quand vous lui souriez, il vous rend le sourire. En réalité, il n'a jamais cessé de nous copier. Il nous copie bien parce qu'il nous observe très, très bien. Évidemment, en grandissant, ces observations vont s'améliorer et toucher d'autres dimensions, comme notre personnalité, notre attitude, et bien sûr, pour aider l'enfant à cerner notre personnalité. À partir de ces observations, il se construit une image du monde et une image de ce qui est censé se produire et de ce qui est censé ne pas se produire. Parce qu'il observe très bien, il devine tout ça. Par exemple, si vous lui dites de dire la vérité, il s'attend à ce que vous soyez le premier à le dire. Donc, il ne s'attend pas à ce que nous mentions.
Alors, qu'est-ce qui se passe si on agit différemment de ce qu'on a enseigné à nos enfants ? Parce qu'on le fait tous.
Oui, ça devient une erreur un peu catastrophique qui casse la règle. Et le monde devient instable, insécure pour l'enfant, car on vient d'introduire une erreur dans les règles que nous avons enseignées. Et c'est dangereux pour l'enfant. Par exemple, imaginez que vous disiez à votre enfant qu'il ne faut jamais mentir et que vous lui répétiez ça sans cesse. Dans le contexte africain, on va même jusqu'à frapper les enfants si on les surprend à mentir. Et que d'un seul coup, quelqu'un arrive et toque à la porte et que vous disiez à votre enfant, dis-lui que je ne suis pas là. Une erreur vient de se produire et le monde devient insécure. Vous qui avez frappé l'enfant pour l'obliger à dire la vérité, vous venez de lui et dire qu'en réalité, votre règle n'est pas valable tout le temps.
Ah, il ne comprend plus rien.
Il ne comprend plus rien. Certains parents pensent que ce n'est pas grave, pendant que d'autres sont dans le déni.
Qu'est-ce qu'il s'est passé finalement dans la tête de l'enfant quand tout d'un coup il s'est retrouvé face à cette incohérence de son père, de sa mère ?
C'est terrible comme image, parce qu'en réalité, même si ça paraît anodin et tout, mais dans la tête de l'enfant, il vient d'entendre son parent mentir et violer la règle. Ça, c'est très, très important. Celui-là même qui lui ordonnait la droiture, qui lui tenait rigueur de ne pas dire la vérité, faites la conclusion à la place de l'enfant, on peut donc mentir. Et c'est la pire des façons d'apprendre à mentir. Et enfin, l'enfant se dit, tiens, si ça se trouve, il y a également d'autres règles qu'on m'a imposées qui ne sont pas valables. Et si ça se trouve, aucune des règles qu'on m'a données n'est valable et absolue.
Alors, quelles sont les conséquences pour l'enfant, Ibrahim Agirou ?
Emmanuel, aucun mensonge du parent n'est ni petit, ni pas grave, et donc encore moins à prendre à la légère. Cela vaut d'ailleurs pour tous les responsables dans les services comme dans les entreprises. Le mensonge du parent diminue sa légitimité et augmente le risque qu'il ne se fasse pas respecter d'une part et qu'il recourt à la violence pour y arriver d'autre part.
Et comment faire pour ne pas arriver à cette situation ou sinon comment s'en sortir ?
Emmanuel, le plus simple, c'est enseigner peu mais bien. En commençant par les choses que l'on maîtrise, notamment les choses simples que l'on peut appliquer tous les jours de façon consistante, donc sans violer nos propres enseignements, et savoir les doser, c'est-à-dire ne pas tout enseigner en même temps à l'enfant. Et surtout, sans se montrer radical, comme si le monde devait s'arrêter à la bêtise de l'enfant. Non, le monde va continuer à tourner malgré cette bêtise de l'enfant. Maintenant, pour s'en sortir, il est possible de commencer par rompre avec les habitudes de donneur de leçons, travailler sur soi-même en tenant les promesses, en reconstruisant patiemment la relation de confiance avec son enfant. Il ne faut donc surtout pas s'impatienter et s'attendre à ce que la confiance reprenne du jour au lendemain. Rome ne s'est pas fait
en un jour. Et la question à méditer, Ibrahim Agirou.
Si dire la vérité est le premier enseignement à être sacrifié, Emmanuel, quelle autre valeur pourrait bien être préservée par la suite ?
Oh là ! Eh bien alors là, c'est une sacrée pression hein, pour les parents. Merci beaucoup Ibrahim Agirou. Toutes vos chroniques sont à retrouver sur les plateformes de téléchargement. Parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Et
avant de se quitter, je vous signale que demain, chez la voisine Diara Ndiaye, l'émission « Alors on dit quoi ?» fête ses 1 an et vous pourrez découvrir les coulisses de l'émission fabriquée par des jeunes pour des jeunes. Le rendez-vous est à 10h10 temps universel pour ceux qui écoutent sur le continent africain, puis sinon en podcast, sur l'appli RFI Pure Radio, tout comme notre émission 7 milliards de voisins. Et quant à nous, on se retrouve lundi, 7 milliards de voisins, moi, compagne de prêtre. Des femmes racontent leurs amours interdites avec des prêtres. Ce sont parfois des histoires qui durent depuis des années, entièrement secrètes. C'est un reportage en France de Justine Rodier qui repose la question du célibat des prêtres. Et bien sûr, vous aurez la parole, les voisins et les voisines, où que vous soyez dans le monde, si vous êtes concernés par le sujet. On attend vos appels, totalement anonymes bien sûr. Ne manquez pas l'émission. Et d'ici là, très très bonne fin de semaine. À l'écoute de RFI bien sûr. À lundi les voisins.
En 2019,